Couplez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Encore 9h50 pour être précis avant la première demi-finale de la Coupe du Monde de football. Demi-finale que vous pourrez suivre évidemment sur l'antenne Afrique de RFI à partir donc de 18h temps universel. Prise d'antenne dès 17h45, donc soyez nombreux au rendez-vous. Alors évidemment, au jeu des statistiques, c'est la Belgique qui gagne. 73 rencontres, 30 victoires pour les Diables Rouges, 24 pour les Bleus, 19 matchs nuls. Mais quand on regarde attentivement ces rencontres sur les deux matchs en phase finale de Coupe du Monde. Vous me direz que ça remonte à 1938 et 1986. C'est tout de même la France qui avait pris l'avantage. Alors dites-nous quels sont vos pronostics. Les Bleus parviendront-ils à s'imposer face à la meilleure attaque de cette Coupe du Monde? 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à réagir sur la page Facebook de l'émission. Des centaines de commentaires postés. J'en lis, allez, deux juste pour vous donner un peu l'ambiance sur cette page Facebook. Abba nous dit qu'à ce stade de la compétition, toutes les équipes deviennent redoutables. L'expérience des Belges face à la détermination de la jeune équipe de France. Quel suspense! Et il a raison, Abba. Suspense total. Encore durant 9h50. Amidou reconnaît la puissance de feu des attaquants belges. Mais je pense, dit-il, que la défense française viendra à bout des Diables Rouges pour les cerner. Donc la France prendra le dessus sur la Belgique avec même un score de 2-0, nous dit cet auditeur. Vous continuez donc à nous appeler 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI, et dans l'actualité, il n'y a pas que le football. Bonjour Marius.
Voilà, bonjour Monsieur Juan Gomez.
Bienvenue sur l'antenne. Vous avez des questions concernant la République démocratique du Congo?
Tout à fait. En quelques secondes, je voulais souhaiter la bonne chance à l'équipe de France qui va aisément battre la Belgique ce soir par 2-0.
D'accord, vous en profitez donc pour nous livrer vos pronostics. Je disais qu'il n'y avait pas que le foot dans l'actu, bah visiblement si. C'est-à-dire que même quand les auditeurs nous appellent pour poser des questions qui n'ont rien à voir avec le foot, on en finit toujours par parler de cette équipe de France. Mais c'est très bien, vous avez raison de supporter les Bleus. Marius, on vous écoute.
Ok, la visite du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine, prévue normalement ce mardi, a été reportée ce midi, sans qu'aucune date ne soit fixée, Joseph Kabila n'étant pas disponible de les recevoir. Alors, je voudrais savoir, comment se fait-il qu'il ne puisse pas être disponible pour une visite d'une telle importance? Et quelles sont les réactions de l'ONU et de l'UEA par rapport à ce report? Et quelles sont les conséquences de leurs relations avec la République démocratique du Congo?
À mes côtés, Sonia Rollet pour vous répondre. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, Antonio Guterres et Moussa Faki étaient censés arriver hier soir à Kinshasa, dans le même avion d'ailleurs. Ils devaient rencontrer aujourd'hui le président Kabila. Seulement voilà, cette visite a été annulée à la dernière minute. C'est le troisième rendez-vous manqué tout de même entre le secrétaire général de l'ONU accompagné du président de la commission de l'UA et le président congolais.
Oui, et d'habitude, on n'a pas toujours la date. En tout cas, pour les deux premières fois, on avait une vague idée de quand il serait là, mais le programme n'était pas complètement fixé. Alors que là, pour la première fois, le programme était fixé et ils avaient même contacté la presse, les journalistes, hein, pour proposer des interviews avec les deux personnages, qui a évidemment donné lieu à des commentaires par la suite quand effectivement les interviews ont été annulées. Donc oui, on est dans une situation qui est... pas inédite pour le Congo, puisque le président Kabila est plutôt un président qui parle peu, qui rencontre peu de gens, qui va presque jamais au sommet.
D'ailleurs, il n'était pas au sommet de l'Union africaine la semaine dernière à Nouakchott.
Voilà, il ne vient pas au sommet, même les sommets de la SADC, il n'y va pas toujours. Enfin, il ne va pas non plus très souvent à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, pour le voir, il faut quand même venir au Congo. Et puis, c'est vrai que c'est même ces derniers mois, on a vu que c'était difficile pour les miniers de rencontrer même le plus grand groupe au monde, de rencontrer le président Kabila. Voilà, il ne souhaite pas rencontrer tout le monde dans cette période un peu particulière où là, quand même, dans deux semaines, il va y avoir l'ouverture des candidatures pour la présidentielle et où finalement ces visites visaient surtout à essayer d'amener à discuter avec le président Kabila pour le sonder d'abord, pour savoir quelle est son opinion, et puis évidemment faire quelques pressions pour s'assurer qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat.
Officiellement, il se dit qu'il n'était pas en mesure de les recevoir ce matin. A-t-il vraiment envie de les voir?
Ça, c'est la bonne question. Enfin, si on croit, par exemple, le communiqué du ministère congolais des Affaires étrangères, voilà, le ministre est très clair sur le fait qu'ils sont les bienvenus et que c'est juste un rendez-vous reporté. Sauf que officieusement ou officiellement, c'est un peu ce qui était dit à chaque fois sur les précédentes rencontres. Là, il y avait une date qui était quand même fixée, c'est quand même important. C'est pas des dates qui, sur les agendas de ces personnages-là, s'improvisent complètement, ce qui laisse penser, enfin, ce qui fait dire même beaucoup à la communauté diplomatique que le président Kabila n'a pas voulu du tout recevoir ces personnes.
Oui, et surtout, peut-être pas envie d'aborder les sujets qui fâchent avec ces deux personnes.
Voilà, et en tout cas, ce que dit son entourage, l'entourage du président Kabila, c'est qu'il est très occupé en ce moment, qu'il y a une élection à gérer, oui, et que l'élection aura lieu quoi qu'il arrive, et c'est le message qu'ils avaient depuis le départ, mais ils parlent vraiment peu de la candidature.
Mario, vous nous demandez quelles sont les réactions des Nations Unies et de l'Union africaine après ce report ?
Alors, il n'y en a pas. En général, ils ne disent pratiquement rien parce que c'est vrai que pour eux, c'est difficile. On a quand même entendu dire, bon, la date n'était pas fixée, cette rencontre aura toujours lieu. C'est un peu ce genre de ils ne veulent pas le dire frontalement, voilà, ou même leur agacement, alors qu'en officieusement, on sent les gens plutôt agacés par cette situation.
Marius, on vous souhaite une bonne journée en Côte d'Ivoire. Merci de nous écouter sur place à Abidjan. Sonia Rollet reste avec nous. Autre question sur la République démocratique du Congo. Bonjour Alidor.
Bonjour Juan, bonjour Sonia et à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Vous êtes à Kinshasa, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci Juan. Alors, l'Organisation des Nations Unies a publié son rapport sur les massacres et crimes commis dans le Kasaï et attribue une part de responsabilité à la milice Banamura agissant sous l'ordre direct du président Kabila, alors que d'autre part, une loi portant statut de l'ancien chef d'État vient d'être votée au Sénat. Alors du coup, je voudrais savoir quelles sont les conséquences de ces rapports et en plus, pourrait-il permettre à la justice de faire son travail ?
Alors Sonia Rollet, les violences dans les Kasaï, plus de 3000 morts selon les Nations Unies, près d'1,5 million de déplacés ces deux dernières années, toujours selon l'ONU. Ce rapport d'experts, ce sont 5 mois d'enquête, 3 visites sur le terrain, quelques 500 témoins et victimes interrogées. En deux mots avant de répondre précisément aux questions d'Alidor, que faut-il retenir de ce rapport ?
Alors, ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est d'abord que pour la première fois, en fait, les Nations Unies présentent les Kamuina Tsapu. On disait que c'était plusieurs groupes de milices, un mouvement, comme un groupe armé unique, organisé, qui aurait organisé une attaque généralisée sur 5 provinces en 6 mois. Donc, ils lui donnent une structure. Ils considèrent ainsi que c'est un groupe armé. Et du coup, ça leur permet également de détailler, de dire il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité des deux côtés, parce que c'est un conflit armé.
Et quand on dit des deux côtés, ce sont donc ce groupe armé et du côté des forces armées de la République démocratique du Congo.
Voilà, des forces armées de la République démocratique du Congo ou de leurs supplétifs.
Ouais. Quid de la justice ? C'est la question d'Alidor. Est-ce que ce rapport va enfin permettre de poursuivre les responsables de ces crimes ?
Alors non, puisque ce n'est pas les Nations Unies qui vont les poursuivre. Donc là, il y a des recommandations en vue, mais qui sont un peu toujours les mêmes, de dire, bon, il faut soutenir la justice militaire, lui donner plus de moyens, il faut que l'ONU la soutienne. Donc c'est un peu des recommandations générales. Ils disent qu'ils tiennent à ce qu'il y ait des poursuites contre tout le monde. Dans ce rapport, il y a des cas concrets, effectivement, qui sont expliqués. Les noms ne sont pas expliqués pour préserver la présomption d'innocence des présumés responsables. Cette liste est gardée confidentielle par le Haut Commissariat. Il y a des éléments qui sont partagés avec la justice militaire congolaise. Ça devait être un soutien de l'ONU à la justice militaire congolaise pour mener ces enquêtes. Maintenant, ça fait pratiquement 1 an et demi déjà que cette situation a commencé, que les procès tardent à venir.
Il n'y en a eu que 2 pour l'instant. 2 parmi les 12 cas les plus graves qui ont été documentés par les Nations Unies.
Voilà, et c'est rien par rapport au nombre de situations qu'il y a. Il faut savoir que ce genre de rapport, ils arrivent très souvent, qu'en fait, effectivement, c'est un problème au Congo, qu'il n'y a pas toujours de poursuite contre les responsables. Et là, par exemple, il y a un cas concret, à savoir que certains des militaires qui sont soupçonnés dans le cas des violences au Kasaï avaient fait l'objet d'une enquête conjointe entre l'ONU et la justice militaire congolaise et qu'ils auraient dû être arrêtés 1 an avant de commettre les exactions qu'ils ont commises au Kasaï. Cette situation se répète assez régulièrement.
Merci beaucoup Sonia Rollet. Puis précisons que la ministre congolaise des droits de l'homme reconnaît effectivement ces lenteurs de procédure, mais elle affirme que c'est pour mieux préparer le dossier d'instruction. Donc, affaire à suivre. Merci Sonia Rollet. Bonne journée à Alidor. Merci de nous écouter à Kinshasa. 33 9 693 693 70. On va évidemment parler football. On a des questions sur cette première affiche des demi-finales de la Coupe du Monde France-Brésil, que vous pourrez suivre en direct dès 18h, temps universel, sur l'antenne Afrique de RFI, avec les commentaires d'Antoine Grenier et d'Éric Mamerut, en direct de Saint-Pétersbourg. Antoine Grenier est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Merci d'être en direct et de répondre à quelques-unes des questions que nous avons reçues concernant ce duel France-Belgique. Allez, on va commencer avec Modou, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les spécialistes d'Erifée qui nous font vivre la Coupe du Monde et le 2018.
Merci de vos encouragements, vous êtes à Dakar au Sénégal, on vous écoute.
La première demi-finale de cette Coupe du Monde se joue dans quelques heures entre les Bleus de la France et les Diables Rouges de la Belgique. Alors, quelle est la stratégie de Didier Deschamps pour contrecarrer l'attaque belge qui est jusque-là la meilleure attaque du tournoi?
C'est vrai, la Belgique possède la meilleure ligne d'attaque, 14 buts inscrits en 5 matchs. Antoine Grenier, quelle sera la stratégie envisagée selon vous par Deschamps tout à l'heure?
Eh ben, ça va être une stratégie à la Deschamps, c'est-à-dire qu'on ne va rien changer aux habitudes. On va faire confiance aux 11 titulaires. A priori, Blaise Matuidi sera de retour cet après-midi, lui qui était suspendu contre l'Uruguay. Matuidi qui sera donc sur le côté gauche, a priori, du milieu de terrain français pour contrer Kevin De Bruyne. Et puis, il y aura Benjamin Pavard en défense du côté droit pour lui arrêter Eden Hazard, le Belge ayant aussi tendance un peu à repiquer dans l'axe. Il devrait se retrouver avec Kanté face à lui et il ne sera pas étonnant a priori de voir Paul Pogba dans un rôle un petit peu plus défensif que d'ordinaire pour soutenir Kanté et Matuidi dans ce milieu à 3 qui est performant hein, jusqu'ici. Mais il faudra que le milieu de terrain de Manchester United affiche un petit peu plus de sérieux et de concentration, hein, lui qui est très expressif sur le terrain et qui est capable de sortir par moment un peu de son match. On se souvient contre l'Argentine par exemple, sur le but de Di Maria, très très mal placé. Bref, il va falloir du côté de Didier Deschamps resserrer les lignes pour empêcher les Belges d'avoir des espaces, car quand Hazard ou Lukaku prennent de la vitesse, bah, c'est toujours difficile de les arrêter.
Effectivement, il va falloir pour les Bleus empêcher que Lukaku, en l'occurrence, n'ait trop le ballon. C'est quand même un sacré test pour la défense de l'équipe de France.
Ah oui, parce que vous le disiez, Juan, les Belges, ils ont inscrit 14 buts en 5 matchs. C'est une attaque de feu. Est-ce que c'est leur longue expérience commune en sélection ou alors le fait d'évoluer en première ligue tous les trois? Mais en tout cas, Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, ils se trouvent quasiment les yeux fermés dans ce mondial. Et pour une défense française, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, qui a quand même pris 3 buts contre l'Argentine, et finalement que Lionel Messi, qui a joué contre un Uruguay sans Edinson Cavani, donc assez diminué. Ça va être vraiment un gros test d'avoir ces trois attaquants face à elle. Et puis, il y a d'autres joueurs dans cette équipe belge. Il y a le milieu de terrain avec Fellaini et Witzel, qui a été d'une solidité remarquable face au Brésil. Et le danger, il vient de partout, du côté des Diables Rouges. Yann Vertonghen, par exemple, a marqué de la tête face au Japon. Et Fellaini et Nasser Chadli aussi, dont ce n'est pas le rôle pourtant, c'était muet en buteur.
Ouais. Commentaire sur la page Facebook de l'émission. Choukou nous dit « L'équipe de France a tout ce qu'il faut pour battre la Belgique. Pour y arriver, Deschamps doit écarter Olivier Giroud pour ce match et jouer 4-4-2 avec Mbappé et Griezmann à l'attaque. Renforcer le milieu avec Matuidi, Pogba, Kanté et Tolisso. » Voilà ce que nous dit cet auditeur.
C'est une solution. Après, Olivier Giroud, il apporte beaucoup, mine de rien. Il marque pas, c'est vrai. Mais il est très important dans le jeu de remise, dans le jeu dos au but. Il pèse sur la défense centrale. C'est un élément important, Olivier Giroud. Et Didier Deschamps l'apprécie beaucoup. Donc, on voit mal le sélectionneur se priver de l'attaquant de Chelsea.
Modou, vous avez une autre question?
Bien sûr. En quel sens peut-on considérer l'absence de Thomas Meunier comme une faiblesse pour l'équipe belge?
Ah, Thomas Meunier effectivement suspendu après avoir récolté 2 avertissements durant le tournoi. Ce sera un handicap pour les Belges et un atout pour les Français ou pas?
Ben, Thomas Meunier il réalise une très bonne Coupe du Monde, hein. Il en est à 2 passes décisives, mais là où son absence est le plus préjudiciable, c'est parce que c'est le seul joueur à ne pas avoir de vraie doublure dans la liste des Diables Rouges. Alors Roberto Martinez, le sélectionneur, va devoir s'adapter. Ses changements contre le Japon avaient été décisifs en 8e de finale, donc il sait s'adapter. Pour remplacer Meunier, l'hypothèse qui tient la corde, ce serait que Nasser Chadli se place sur le côté droit, ce qui libérerait une place et permettrait à Yannick Carrasco, l'ancien monégasque, d'être titularisé côté gauche, avec une tâche principale pour lui, surveiller Kylian Mbappé, qui est placé du côté droit de l'attaque par Didier Deschamps. Carrasco qui, dans ce cas, pourrait faire valoir sa vitesse bien mieux qu'un Yann Vertonghen, par exemple.
Nasser Chadli qui disait en conférence de presse « Quand tu bats le Brésil, tu ne crains personne ». Voilà qui est dit à quelques heures du coup d'envoi France-Belgique. Antoine Grenier, restez avec nous encore quelques instants. Des questions qui nous arrivent de Bukavu, en République démocratique du Congo. Bonjour Dieudonné.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Des questions sur Thierry Henry.
Oui Juan. Thierry Henry est le sélectionneur adjoint de l'équipe de la Belgique depuis il y a 2 ans. Alors je voulais savoir quel est son apport dans cette équipe de la Belgique.
Entraîneur adjoint de la sélection belge, Antoine Grenier, l'apport il est incontestable.
Thierry Henry, c'est 51 buts en 123 sélections en équipe de France. Selon la terminologie belge, il est T3, c'est-à-dire entraîneur numéro 3, deuxième adjoint. Son rôle, c'est d'organiser les échauffements avant les matchs, de diriger les séances avec le sélectionneur adjoint. Il a un rôle bien plus large que simplement de s'occuper des attaquants. Thierry Henry, c'est un passionné de football, de technique, de tactique. En tant que joueur, c'était un perfectionniste, hein, toujours à la recherche du geste, du déplacement juste. C'est un apport de poids en termes d'expérience pour les Belges, parce que Roberto Martinez, le sélectionneur, n'a pas été un joueur de niveau international. Alors Henry, il apporte aussi son vécu des grandes compétitions. Lui, le champion du monde 98, le champion d'Europe 2000, il a là aussi un petit peu l'expérience des finales perdues, à l'image de celle de 2006 en Coupe du Monde. Bref, c'est un apport très précieux dans beaucoup, beaucoup de domaines, Thierry Henry.
Et on ne peut pas croire que le sélectionneur belge se prive de son expertise, évidemment.
Évidemment que non, parce que je vous le disais, Roberto Martinez, il a été un joueur relativement moyen. Son adjoint Graham Jones a évolué dans des divisions inférieures également en Grande-Bretagne. Bref, Thierry Henry, c'est la caution internationale, c'est la caution champion du monde du côté de la Belgique. Et il a également une grande proximité avec les joueurs, il est très écouté. C'est pas quelqu'un qui parle énormément, mais quand il parle, on l'écoute.
D'accord, il parle aux joueurs mais pas aux médias. Pour l'instant, il n'a accordé aucun entretien à la presse depuis le début de cette Coupe du Monde. Dieudonné, vous avez une dernière question ?
Oui, Juan. La deuxième question est celle-ci. Et Thierry Henry, c'est vraiment l'un des joueurs importants de son équipe, et de l'équipe de France, donc. Alors, je voulais savoir, comment compte-t-il gérer cette ambiguïté ? Parce qu'il va devoir aujourd'hui contrer l'équipe dans laquelle il a joué il y a des années.
Peut-il entraîner sereinement cette équipe belge alors qu'il est lui-même français, qu'il est champion du monde 98 ? C'est une bonne question, Antoine Grenier.
C'est une très bonne question, ça lui fera certainement bizarre au moment des hymnes. Il ne saura peut-être pas lequel chanter, la Brabançonne ou la Marseillaise. Ce sera à lui de choisir à ce moment-là. Mais c'est extrêmement fréquent qu'un entraîneur d'équipe nationale ne soit pas originaire du pays qu'il entraîne. C'est le cas pour la Belgique, Roberto Martinez est espagnol, l'entraîneur adjoint Graham Jones est anglais et Thierry Henry est français. Ça fait partie de son cursus à Thierry Henry, il passe son diplôme d'entraîneur FIFA et il lui faut dans ce cadre une expérience sur un banc de touche et il a choisi la Belgique.
Oui, pourquoi n'est-il pas entraîneur chez les Bleus ?
Parce qu'on lui a rien proposé, tout simplement.
C'est tout le problème.
Lui a confié à l'époque. C'est un peu le problème. Mais ses liens avec les Bleus sont quelque peu distendus, notamment depuis 2009 et sa fameuse main contre l'Irlande en éliminatoire de la Coupe du Monde 2010. Elle lui avait été beaucoup reprochée dans l'Hexagone et il l'avait mal vécu parce qu'il avait eu le sentiment de faire le bien de l'équipe de France à ce moment-là, même si c'était totalement illégal au niveau du jeu. Bref, sa dernière expérience en Bleu, elle a aussi tourné au fiasco à Naïsna, sans qu'il en soit véritablement responsable. Mais Thierry Henry, il faut se souvenir qu'il a surtout mené sa carrière ailleurs qu'en France depuis son départ à Monaco en 99. Il a un peu évolué en Italie à la Juve, il a évolué en Angleterre et il a fini aux États-Unis. Bref, la France, c'est assez loin pour lui. Mais peut-être, quand il sera entraîneur, ambitionnera-t-il de devenir sélectionneur de l'équipe de France un jour ?
Peut-être, qui sait. En tout cas, merci beaucoup Antoine Grenier d'avoir été avec nous ce matin et on vous retrouve évidemment avec énormément de plaisir tout à l'heure à 18h temps universel pour vivre avec vous et Eric Mamrut le match France-Belgique et on en parle justement de ce match dans 10 minutes.